Et il nous reste 19 jours. Alors, pour terminer le cycle de 3 ans, les 1000 ans, les 1000 jours de la liturgie eucharistique. C'est au mois de novembre. Nous n'oublierons pas pendant 19 jours ceux qui sont vivants. On dit ils sont morts, ils ne sont pas vivants. Comment ça ils sont pas vivants? Comment ça ils sont morts? Ils sont vivants. Comment ça ils ne sont pas vivants? Ils sont vivants. Nous sommes vivants depuis la conception. Vivants de vie éternelle. De vie immortelle, de vie spirituelle, de vie divine, à son image et ressemblance. Ah, tout le monde n'est pas forcément vivant de sainteté à l'état pur, de participation dans le mariage spirituel, à la sainteté accomplie, en affinité avec le degré d'amour brûlant du Sacré-Cœur de Jésus, mais on est tous vivants. Et ils sont tous vivants. Nous sommes tous vivants. Oui, mais quand on est endormi, on n'est pas vivant. Mais si, bien sûr que si. Bien sûr que si. Même s'il reste un chemin à parcourir, ce chemin, ce parcours, à la vitesse d'une durée admirable, à la vitesse admirable d'une durée de vie, beaucoup plus intense que ceux qui sont sur la terre. Les véritables morts, en fait, c'est ceux qui sont sur la terre et qui ont abandonné les œuvres vivantes de l'union avec Dieu. Ceux qui ne persévèrent pas dans leur vie donnée à la conception. Il y en a, c'est vrai, qui s'endorment, c'est vrai, qui s'endorment, mais alors on les enterre. Mais on enterre leur corps seulement. Et leur corps reste toujours lié à la vie, à leur propre vie, à leur conception, à l'unité avec le corps, à l'unité avec le corps, et à l'unité aussi avec l'inscription incarnée dans le livre de la vie. Voilà, on a encore 19 jours. Parce que, quand même, c'est l'épître aux Corinthiens qui se disait dans l'office de l'Aude, enfin de ce matin, disons, et chapitre 6 de l'épître aux Corinthiens, versets 18 et 19. Votre corps n'appartient pas à la terre. Rappelez-vous que rendez-vous bien présent à vous-même. Votre corps ne vous appartient pas. Il appartient à Dieu. Vous n'êtes pas propriétaire de votre vie, et encore moins de votre corps. Votre corps a été non seulement créé par Dieu dans sa main, et votre âme, n'en parlons pas. Et votre esprit alors, mon Dieu. Et en plus, il a été racheté. Il a été racheté. Dieu est venu et il a repris possession, il est redevenu le propriétaire de votre corps, de votre chair. Et il l'a racheté très cher. Il l'a racheté très cher. Un prix qui dépasse toutes les richesses qui puissent être imaginées à l'intérieur de l'univers, puisqu'il a fallu payer jusqu'à la déchirure de l'union hypostatique du Dieu vivant dans son principe créateur. Et donc votre corps ne vous appartient pas, il appartient à Dieu. Tu ne peux pas faire ce que tu veux de ton corps, puisque il appartient à Dieu. Et encore moins, ne fais pas ce que tu estimes devoir. Ce que tu estimes pouvoir faire. Il a été racheté très cher, votre corps. Votre corps est le temple, le contenant. Il a une forme. Il a été façonné. Il a une forme, façonné par le potier. Et Dieu, le potier, le Seigneur qui l'a façonné, il l'a créé, il l'a racheté, ben, il l'a transformé. Il a passé son temps, il passe son temps sur la terre, dans le sommeil aussi. Et aussi dans l'immortalité de son, de sa résurrection en puissance. Il a passé son temps à lui donner une forme, c'est-à-dire une adaptation à la résurrection. Et sa forme de résurrection est un acte en lui, parce que la résurrection est adaptée à ce qui scrute de l'intérieur toutes les profondeurs de Dieu. C'est pas le cas de la fleur, ce n'est pas le cas de la colombe, ce n'est pas le cas des espèces animales, par exemple. Même pas les plus nobles, comme par exemple l'aigle. Ils ont un corps qui a été formé par un principe de formation qui n'est pas Dieu. Si vous êtes philosophe, si vous êtes Aristote, par exemple, la forme qui fait la vie intérieure et le corps de l'espèce, de toutes les espèces qui ne sont pas une image ressemblante de Dieu dans l'être humain, c'est un principe qui est créé. La phusis, c'est une lumière créée, naturelle, qui se dissout aussitôt. La mort n'existe que pour l'animal. Ce qui est... elle existe aussi pour le... très bizarrement. Elle existe aussi pour le démon. Sauf que il s'agit d'une mort éternelle, d'une mort spirituelle, d'un état de péché, c'est un état de mort. C'est un éloignement total, total et éternel, de damnation, de réprobation, qui fait qu'ils ne peuvent pas venir s'engloutir, se désaltérer dans le corps glorieux, ressuscité du Christ, qui peut les emporter dans la lumen gloriae, à l'intérieur de ce corps du Christ. Dans son assimilation et sa transformation sans voile, vient resplendir et faire déborder Dieu dans la surmultiplication de son intériorité divine, de Dieu lui-même. Dieu. Alors oui, c'est la mort éternelle. Le péché, quelqu'un qui est sur la terre et qui est dans le péché, c'est sûr, il ne participe pas à la vie qui est celle de l'être humain. C'est pour ça qu'on dit qu'il est en état de mort, mais on a été racheté. Et Dieu veut que tout le monde, que tous les hommes soient sauvés et participent à la gloire de sa divinité de manière éternelle. C'est pour ça qu'il faut persévérer, Nous sommes si nous touchons à... Nous disons « je suis ah, », notre « je suis », nous constatons que notre « je suis » est dans le « je suis » de Dieu. Et les deux ne font pas deux existences, mais dans le « Erhad », écoute bien, rends-toi présent quand même ce que tu es. Tu es dans l'unité, et cette unité dépose à l'intérieur d'elle la formation de lumière et de gloire de Dieu lui-même dans sa présence pour le bien éternel. Ça en fait partie, c'est pas futur, c'est actuel. Et tu, non seulement il faut que tu y persévères, mais en plus il faut que tu en reçois les formes éternelles par ta persévérance surnaturelle. Et c'est pour ça que si tu persévères pas, eh bien, tu n'appartiens pas à Dieu. Pourquoi? Parce que tu estimes appartenir à ce que tu as décidé, toi. Tu as voulu vivre à ton heure, à toi. Et pas du tout dans l'instant, celui qui t'ouvert de manière vivante, lumineuse et sans voile à l'éternité vivante de Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. Le pape Pie XII, hein, il a fait cette encyclique extraordinaire, Humani Generis. Il n'y a pas de voile, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a aucun intermédiaire. Alors les Sadduciens, on se demande d'où ils sortent ceux-là. Hein. D'où est-ce qu'ils sortent? Est-ce qu'ils sortent du peuple d'Israël? Non, mais il faut le faire. Dis, la résurrection n'existe pas. Mais Abraham, Isaac et Jacob, hein, 1000 ans après, sont encore plus vivants que quand ils étaient sur la terre. C'est pour ça que Elohim s'adresse à Moïse en disant, mais c'est des vivants. Ils sont vivants puisqu'ils sont dans ma vie. Et ma vie en eux, de manière vivante. Ça n'a pas disparu, évidemment. Mais comme dans le buisson ardent, il y a le corps du Messie, puisque le corps du Messie enveloppe l'ensemble de chaque instant de la création. Le corps du Messie donne sa forme à toute la puissance de toutes les existences qu'il va faire sortir de lui comme créateur. Et surtout comme comme Dieu vivant qui donne une nouvelle forme. Non seulement il donne une nouvelle forme, non seulement il la maintient dans sa forme, mais il fait éclater sa forme dans un prolongement naturel de son âme créateur. Il magnifie ce qu'il a créé. C'est vrai, il y a une chose extra. C'est quand même une chose extraordinaire quand on voit un petit bout de paille, de rien du tout, qui il reste le même. Lorsque ça devient un lys parfumé, et qui pénètre justement sur la croix glorieuse, qui pénètre justement à l'intérieur de Dieu, par son parfum. C'est Dieu donne sa forme et donne sa croissance spirituelle et glorieuse. Notre corps ne nous appartient pas. Il appartient à Dieu. Voilà, alors, c'est pour ça qu'il faut persévérer. Il ne faut pas persévérer en restant comme ça, au même niveau. Ah, dis-moi, j'ai été baptisé, moi, je. Et Dieu, où est-ce qu'il est là? Oh, ben non, c'est moi, je. Ah oui, quand même, oh. C'est moi, je. Ah, moi, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi, mais et les œuvres? C'est ce que, au jugement dernier, ah, mais moi, ça, je l'ai enterré. Voilà, je te redonne ce que tu m'as donné, en te remerciant énormément, d'ailleurs. Je te redonne ce que tu as aimé. Ah, non. Ce que tu as reçu, Dieu voulait continuellement le surmultiplier des myriades de fois, presque à chaque instant, disons. Et toi, ça restait au même point. Ah, moi, j'ai été fidèle, je suis resté pareil. C'est terrible, ces Sadducéens, c'est des acharnés de la tradition. On reste à une tradition terrestre, extérieure, intérieure aussi, mais de l'intériorité, de l'origine, de leur foi. Et bien ça, c'est vrai que c'est pas bien. Jésus, lui, Dieu, il est venu nous reformer, nous continuer son acte créateur en l'existence de notre vie, et en plus donner une croissance nouvelle, puis une forme nouvelle, qui est indissociable, indivisiblement, et inséparable, et sans aucun voile avec la croissance de l'humanité, de notre ressemblance avec Dieu, qui nous a donné à l'origine. Et la persévérance qui est demandée, c'est celle de la vie. c'est celle de la vie divine, c'est celle de la vie normale, c'est celle de la vie, la seule vie dont on s'assure qu'elle soit vivante. Que Dieu soit vivant, c'est clair. Que nous soyons tirés par l'odeur de l'absence de la vie, c'est vrai aussi. Eh bien, là, la persévérance en vérité, la persévérance qui permet à notre vie d'être, de rester une vie humaine, une vie à la mère ressemblance de Dieu, une vie immortelle, une vie en puissance de résurrection, une vie en acte pur de pénétration à l'intérieur de la vie intérieure de Dieu par la persévérance. C'est une persévérance qui est galopante, qui ne cesse de se transformer, qui ne cesse de rentrer dans la transformation divine elle-même, et qui va jusqu'à l'acte pur, jusqu'à son déploiement final. Parce que, alors on peut avoir des grâces hein, sur la terre, on peut avoir des grâces. C'est vrai, les grâces. Ah, voilà, j'étais aveugle, et puis il y a eu une prière, au nom de Jésus, et ça y est. Pourtant j'étais aveugle de naissance, et maintenant j'y vois. Et même, je m'appelais Lazare, j'étais mort, j'étais vraiment mort, enfin j'étais pas mort, mais puisqu'on est toujours vivant, mais j'ai été ressuscité. Et puis voilà, dis donc. Ah oui, j'ai reçu des grâces. Ah oui, j'ai prié le Seigneur, et parce que j'aimais beaucoup mon petit garçon, ma petite fille, plus sœur, ou mon neveu, bref. Et j'ai obtenu la grâce à conversion. J'ai reçu des grâces. J'ai prié Jésus pour que la pluie s'arrête de tomber. Ah, et la pluie s'est arrêtée de tomber. J'ai reçu des grâces. Et c'était avec Jésus. Oui, non, mais les grâces. Les grâces qui sont des grâces actuelles, c'est-à-dire des grâces qui ne sont pas pour la vie éternelle, qui ne sont pas pour la sanctification, et qui sont pour le temps dans lequel elles ont lieu. Ces grâces-là, ce ne sont pas des grâces. Ce sont simplement des manifestations de la providence de Dieu, c'est tout. Écoute, si tu dors. Je frappe, je te frappe dessus pour que tu te réveilles. Voilà. Alors du coup, je te frappe dessus, tu as reçu des grâces. Mais tu ne te réveilles pas. Jésus vient. Dieu vient. Ton frère, l'Église vient. Et il te réveille. Et puis, dans la seconde qui suit, tu t'endors. Grâces qui viennent, c'est des grâces quand même qui viennent de Dieu aussi. Hein, attention, c'est au nom du Christ. Mais ces grâces-là, le catéchisme, la doctrine de l'Église, Moïse nous enseigne, et les saints, que ce ne sont pas des grâces de vie éternelle. La grâce de vie éternelle, c'est la grâce sanctifiante. C'est la vie divine de Dieu elle-même, mais avec son déploiement, son dynamisme, son actuation pure, se surmultipliant continuellement, sans s'arrêter. À un moment donné, c'est fatigant, hein. On va s'arrêter un peu, et puis boum, tu t'endors. Eh bien, c'est trop tard. On dit ça à la Sainte Vierge. Priez pour nous, maintenant, c'est vrai, pour reprendre la vie éternelle de la sainteté du ciel, dans la terre. Et à l'heure de notre mort, qu'on continue comme ça jusqu'à l'instant de notre sommeil, jusqu'à l'instant de notre dormition, jusqu'à l'instant de notre Assomption, c'est une animation immédiate, ça veut dire il n'y a aucun arrêt, il n'y a aucun voile. Les Sadducéens n'ont pas compris ça. J'ai bien peur que les chrétiens non plus. J'ai bien peur. Pourquoi ? Parce qu'ils n'écoutent pas. Et la persévérance finale, c'est Saint Albert le Grand qui disait c'est l'exercice continuel des œuvres de sainteté, sans s'arrêter. Des œuvres surnaturelles, sans s'arrêter. Oh, une fois de temps en temps, une fois par semaine, et encore, tu sais, un peu tiédasse. Et ça va pas. Hein. Et jusqu'à la fin. Voilà, c'est 19 jours qui sont devant nous maintenant. J'espère que je crois et j'aime à me surprendre, à m'enfoncer et à tout à fait moi-même dans ce que Dieu m'y demande. Vous me direz, mais dans la foi, on sait que le Fils de l'homme reviendra pour sauver, pour le jugement dernier, et qu'il va y avoir la troisième résurrection, et que tous ceux qui sont tous ceux qui ont vécu sur la terre à l'image ressemblance de Dieu et dans la participation sans voile à la vie divine, tous vont ressusciter. Et puis on sait que cette résurrection sera tellement substantielle qu'elle va se déployer à l'intérieur de la nature humaine tout entière, et que même ceux qui sont morts dans la mort éternelle vont ressusciter, ceux qui sont en enfer, eux aussi, dans la troisième résurrection. Leur corps va ressusciter, mais il va ressusciter pour le jugement et pour être emporté là où leur âme s'est introduite pour l'éternité dans la damnation. Leur corps va aussi. Et ils seront inséparés de leur corps. Mais la résurrection n'est pas faite pour eux. La résurrection, elle est faite pour la vie. Mais cependant, l'amour et la sagesse créatrice de Dieu vis-à-vis du corps qui ne nous appartient pas et qui lui appartient à lui ne peut pas être détruite, puisqu'il l'a fait par amour. Elle dit, mais comment se fait-il que les morts demeurent éternels dans leur âme, quand ils vont ressusciter, puisque la résurrection est faite pour la vie, comment se fait-il que leur corps va ressusciter et demeurer éternellement, continuellement, à chaque instant, successivement, dans un temps qui n'arrêtera pas de s'écouler, et éternellement, et jamais, il ne parviendra à s'éclore ou à se renoncer lui-même à vivre corporellement du feu du Tartare. Comment ça se fait? Mais parce que si dans ta chair, dans le monde incarné, ta vie, dans les instants de ton pèlerinage, dans ta volonté personnelle, tu as voulu à chaque instant de ta vie vivre en dehors de la résurrection, vivre en dehors de Jésus, vivre en dehors du Saint-Esprit, vivre en dehors de la Jérusalem dernière, vivre en dehors de ta mère c'est la Jérusalem glorieuse, c'est la Jérusalem céleste glorieuse, entièrement glorieuse, mais l'amour de Dieu, lui, tu ne peux pas le supprimer. Il continue à inscrire son amour, son voile, à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton « je suis, j'existe, et je vis ». Mais comme il y a quelque chose chez toi qui a toujours des milliards de fois, pas une seule fois, tu es sorti de ces milliards de péchés mortels, d'état de choix, de la mort totale de ta vie dans la main de Dieu. Des milliards de fois. Mais Dieu, des milliards de fois, il continue à te donner tout son amour. Hein. Oui, mais toi, des milliards de fois, tu le refoules. Des milliards de fois, tu le refoules. Et de toute façon, c'est ça, c'est ton choix, c'est ta volonté. Je m'appartiens à moi. J'ai le droit de faire de ma vie ce que je veux. Et j'ai fait beaucoup de bien en plus. Et j'ai fait beaucoup de miracles. J'ai fait des prières, mais en quantité considérable, pour aider les autres. Donc moi, j'ai fait des prières. Malheur à toi. C'est vrai, il y a quelque chose qui est saisissant dans la révélation de Jésus à propos de la résurrection de la chair. Mais l'amour de Dieu continue. Mais oui, mais toi, t'as te refoulé. Tu dis non, c'est pas la Jérusalem glorieuse qui est ma mère. Ma mère, c'est ma volonté, c'est tout. c'est ce que je veux, c'est ce que je comprends. Je maîtrise parfaitement la situation de la grâce chrétienne qui est la mienne. J'ai tout sous contrôle. C'est terrible, hein, la troisième vague. C'est terrible. Oui, mais l'amour de Dieu, il n'est pas supprimé pour autant. Mais comme tu refoules. Pas une seule fois tu as permis au rachat de la troisième rédemption universelle, même là. Pas une seule fois tu as dit, j'échappe du filet de l'oiseau, alors pas une seule fois. Ben là, du coup tu refoules, mais l'amour de Dieu, si tu refoules l'amour de Dieu, tu refoules l'amour, mais l'amour de Dieu ne se refoule pas. Alors ça fait, je ne sais pas si vous avez vu un chalumeau, hein. Quand il y a un retour de flamme, c'est ça, l'amour de Dieu est toujours là. Mais toi tu refoules alors, et ce retour de flamme fait le tartare, corporellement c'est le tartare, c'est un vrai feu. Parce que c'est un refoulement incarné. Parce qu'il y a des personnes, hein, qui ont perdu la foi catholique, hein, qui disent que Dieu est miséricordieux, tous les hommes seront sauvés, hein, puisqu'il est miséricordieux. Donc l'enfer, oui, il existe pour les démons. Voilà. Mais à un moment donné, bon. C'est pas le tartare éternel quand même. Hein? Non. Ça, le Christ, Jésus, l'Esprit Saint, la doctrine infaillible, l'Immaculée Marie aussi. Hein? Le ciel tout entier vous dit non, c'est pas vrai. La vérité, c'est que l'enfer existe et qu'il y a une multitude une multitude. Moi, mon espérance chrétienne, c'est de croire que c'est pas vrai. Ah bon? C'est ça ton espérance chrétienne? Votre vie ne vous appartient pas, elle appartient à Dieu. Et la persévérance finale, consiste à être dans les œuvres surnaturelles, en augmentation, en croissance, ça se multiplie au centuple à chaque fois, à chaque moment. C'est tout à fait à chaque fois autre chose. C'est un déploiement, c'est à chaque fois une floraison, à chaque fois une fructification nouvelle, un univers nouveau. On va de grâce en grâce. On ne s'agrippe pas à quelque chose qui est reçu, qui nous appartient. Nous appartenions, c'est le contraire, nous appartenons à Dieu. Il nous a rachetés. Et donc on lui appartient, il nous a racheté très cher. Et du coup on voit à quel point Dieu nous attend, et à quel point les vivants nous attendent, de ceux qui peut-être, à cause d'une dernière espérance au moment de la fin, où ils sont endormis, se relient à la Jérusalem glorieuse, se tournent dans l'espérance, hein. À la gloire éternelle et incarnée de la Jérusalem céleste. À quel point ils ont besoin. C'est ces 19 jours du mois de novembre qui restent. À quel point ils ont besoin que nous puissions grandir dans leur âme, avec eux à leur place au purgatoire, dans la vie purgative. Parce que si, au moment de la persévérance finale, au moment de l'endormissement, dans l'instant dernier, quoi, il y a eu quelque chose qui a fait que ils sont finalement rentrés dans le regard que Dieu posait sur eux pour y accéder eux-mêmes, dans l'acquiescement, ben, ça change tout pour eux. Au jour de la résurrection, leur corps ne ressuscitera pas pour le tartare. Mais oui, mais en attendant, ils dépendent de la foi, de l'espérance et de la charité, de ceux qui sont dans la grâce sanctifiante et qui persévèrent, mais de plus en plus, plus intensément, en compréhension, en intensité, et aussi en extension, en quantité. Mais aussi en qualité, mais aussi en divinité toute pure. C'est ceux-là qui mais dans la foi, l'espérance et la charité. Il participe au rachat. Et de sorte que toutes ces âmes, lorsqu'ils en prennent possession par la vision naturelle du Christ en eux, puis qu'ils sont les membres vivants de Jésus vivant et entier, ben, toutes ces âmes nous appartiennent, du moins nos actes leur appartiennent, puisqu'ils appartiennent à Dieu. C'est Jésus, c'est Dieu qui nous a rachetés très cher, mais il n'a pas voulu le faire sans l'Immaculée Marie. Il n'a pas voulu le faire sans la foi, totalement. Dans l'obscurité, mais totale de la foi, dans l'Immaculée Conception. Il n'a pas voulu le faire sans la vie continuellement grandissante de Marie, jusqu'à son affinité avec la vie substantielle de l'acte pur qui est intérieur à Dieu lui-même avant la création du monde. Dans les actes d'espérance qui se déploient continuellement et de plus en plus en elle. Il n'a pas voulu le faire sans la foi de la Jérusalem de l'Église, qui, elle, est formée par la Jérusalem glorieuse et céleste, qui est notre mère. Vivre de la vie chrétienne sans vivre des fins dernières, c'est une énorme tromperie, une gigantesque erreur, une totale hérésie. Une hypocrisie parfaite. Et il faut toujours se dépasser. Les vertus héroïques, c'est ça qui fait les saints. On prend. Alors c'est bien de pouvoir communier à la messe. Parce que le pain de la vie nous est donné comme nourriture. Mais c'est pas nous qui assimilons le pain de la vie descendu du ciel. C'est le pain de la vie qui nous assimile en lui. Et se laisser assimiler, assumer, pour faire les délices de Dieu à l'intérieur de Dieu, pour que la gloire, la glorification de sa gloire incréée éternelle fasse ses délices dans la nature humaine, glorifiée, ressuscitée. Et immaculé au sens de la conception immaculée de Dieu, qui est une conception, parce que Dieu est conçu comme Dieu vivant. À un moment donné, lorsque nous serons inscrits comme ça par la grâce du temps, de l'Église, par la foi, une foi qui sera tellement extraordinaire, parce que, une espérance, une charité aussi, parce qu'elle augmentera, hein. Donc le démon, les hommes aussi, tiens, ils disent, ah, on va se saisir d'eux et on va les torturer, allez, on va les embêter, c'est. Mais ils peuvent pas parce que tant qu'on échappe, puisque on passe à une grâce encore plus grande. Donc on échappera toujours dans la Jérusalem nouvelle et ouverte de la foi de l'Église sur la terre. Mais pourquoi? Parce qu'elle est adaptée et est engendrée par celle qui est notre mère. Nous sommes les membres vivants de la Jérusalem immaculée et vivante de Dieu. Mais la Jérusalem vivante et immaculée de Dieu, dont nous sommes les membres vivants, et aussi les tabernacles, est engendrée par la Jérusalem céleste, qui est, elle, à l'intérieur de l'éternité glorieuse de Dieu. Elle est notre mère, celle-ci, celle-là. Oh non, 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 il n'y a pas de résurrection. Ça, c'est l'évangile d'aujourd'hui, c'est terrible de dire ça. Et il paraît qu'un sermon, il ne faut pas que ça dure plus de 10 minutes. Alors. Mais enfin, quand même, on a le droit de lire l'évangile. Hein. Mais c'est vrai. Si tu es un enfant de ce monde-ci, alors tu te maries. Si tu es de ce monde-ci, tu n'es pas du monde de Dieu. Hein? Chapitre 20 de l'évangile de Saint-Luc, verset 30. Si vous êtes des enfants de ce monde-ci, vous prenez femme et mari, mais il n'en est pas ainsi pour ceux qui ont été jugés dignes dans ce monde d'avoir part au monde à venir. Ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir dans ce monde. Qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts. Ceux-là, ils ne prennent ni femme ni mari, C'est une espèce de droit d'adolescent capricieux, ça. Mais j'ai le droit quand même de me marier, non? Non, ceux-là, non. Ne prennent ni femme ni mari. Puisqu'ils sont rentrés dans la dignité divine de ceux qui ont part au monde à venir et à la résurrection des esotères. Donc ils ne se marient pas, ceux-là. Puisqu'ils ne peuvent plus mourir. Non, mais Jésus, il l'a dit ou il l'a pas dit? Non, Saint-Luc a dû se tromper. Non. Il a dû se tromper. Ah, oh, bah oui, il s'est trompé, puisqu'il n'y a pas de résurrection. Ils sont semblables, ceux-là, aux anges. Et c'est sûr que dans la Jérusalem nouvelle, il y a une similitude. La ressemblance absorbe la similitude angélique. Et les deux sont assimilés par Dieu dans le pain de la vie. Ils sont semblables aux anges. Ils sont engendrés de Dieu et engendrés de la résurrection. Car Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. C'est pour ça, vous voyez, par exemple, le sacrement de mariage. Tu sais, un sacrement, bon, tu te maries, on te pardonne. C'est ça, Saint Alphonse de Ligorie, ça scandalise souvent les gens. Mais on te pardonne parce que, bon, c'est une patience, quoi. Ce qu'on dit, mais Moïse, il vous a permis, bien sûr, mais c'est parce que vous êtes... C'est parce que vous êtes mauvais dans votre cœur. Hein? Le mariage, puisque c'est l'évangile à propos du mariage, toutes les formes du mariage, la responsabilité, tout ça. Hein? Mais Jésus a institué les sept sacrements, et en particulier le sacrement de mariage. Le sacrement de mariage est fait pour la terre. Et la doctrine sur le sacrement de mariage, sa présence réelle, sa présence sacramentelle, la présence de Jésus dedans, c'est une présence, voilà. Et bien, elle est telle que ce sacrement, c'est le seul d'ailleurs de tous les sacrements, qui s'arrête, qui se dissout et disparaît, dès cette terre. Dès cette terre. C'est pas un sacrement. Par exemple, le sacerdoce, vous avez un sacrement. Il disparaît pas dans la résurrection, ni éternellement, même en enfer, le sacrement du prêtre reste vivant, ouvert, à l'intérieur de l'enfer éternel et le Tartare. Ce qui contribue d'ailleurs à un refoulement de l'amour qui correspond sur eux, qui est terrible. Il faut beaucoup prier pour les prêtres, pour leur persévérance finale. Parce qu'il est impossible, strictement impossible, de trouver un damné, même un démon, qui aura plus de tourments, si je puis dire, dans l'enfer éternellement qu'un prêtre. Et il y en a beaucoup qui sont au purgatoire aussi. Mais le caractère du baptême, il est éternel. Le caractère de confirmation est éternel. L'absolution, mais il est éternel dans son acte pur. Hein? Mais le mariage, il est dissous immédiatement. Mais on dit, mais non, il est indissoluble. Il est indissoluble dans le parcours de la terre. Mais il suffit qu'il y en ait un qui s'en aille, je veux dire, un qui... Et hop, le sacrement disparaît. Il n'y a plus. Et c'est pour ça que quand je relis ce que Jésus dit, mais prendre femme et mari, se marier, devant ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, il dit, mais les enfants dans ce monde, c'est les enfants qui sont de l'esprit de ce monde qui prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes de participer au monde à venir, à la résurrection d'entre les morts, ne prennent ni femme ni mari, puisqu'ils ne peuvent plus mourir ayant participation au monde à venir, à la résurrection. Ils sont semblables aux anges, ils sont engendrés de Dieu et engendrés de la résurrection. Ils sont dans la responsabilité. Ils sont dans la responsabilité à l'état pur. Ils sont dans la responsabilité incarnée. Ils sont dans la responsabilité glorieuse. Ils sont dans la responsabilité virginale, incréée de la lumière de gloire, de la vision bénéfique dans la chair. Même si tu es marié, si tu ne vis pas ça, eh bien il vaut mieux que tu ne te sois pas marié à l'Église. Ça, vous voyez, c'est quelque chose qui... c'est l'enseignement de l'Église, mais c'est vrai, les prêtres, je sais pas, n'osent pas tellement parler, de la virginité surnaturelle, et de ça, parce que là, si on vit à ce moment-là, de cette sensualité à l'état pur, c'est-à-dire une animation immédiate, la sensualité de la très sainte Trinité, dans l'incarnation de notre sensualité mutuelle, dans l'au-delà de l'unité des deux, assimilé, dans cette participation, et puis en plus ça a été glorifié, faut pas oublier ça, Marie, Joseph, son mari, mais tout ça, c'est emporté, transformé dans l'anastase, mais ils vivent pas du tout d'un mariage de la terre, ils vivent du mariage de l'époux et de l'épousée, c'est-à-dire de la première et de la deuxième personne de la très sainte Trinité, qui disparaissent de manière incarnée grâce au rachat, et à la résurrection, dans l'unité hypostatique du rassasiement de la gloire qui glorifie tout, et renouvelle continuellement, n'est pas seulement à l'infini, mais dans l'acte pur lui-même, toute la vie intérieure qui scrute les profondeurs des hypostases du mariage spirituel, de Dieu lui-même à l'intérieur de lui-même. On ne peut pas faire comme si Dieu n'existait pas, quand même. Mais ça, c'est l'enseignement de l'Église sur la Jérusalem dernière. Et j'arrête là. Parce que les apôtres, ils disent, mais alors, si c'est comme ça, qui peut être sauvé? Alors Jésus a répondu, alors même mes apôtres, ils ne pigent pas ce truc élémentaire. Allons vite à la crucifixion, parce que il n'y a pas d'autre solution, quoi. Alors Jésus leur a répondu, mais ce qui est impossible pour l'homme séparé de Dieu est possible pour Dieu dans l'homme. Tous, en effet, vivent pour Dieu vivant dans les vivants. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant,